Le débrief 100% hack, le podcast sur l'actualité du Havre en Ligue 1.
La panenka d'Abdoulaye fait que ce match est pour moi rentré dans l'histoire du club.
L'espoir, moi, objectivement, je ne l'ai jamais perdu.
L'unité de tout un groupe, tout un club, ça génère justement la chance, comme on dit.
Hello les amis, les fins de mercato se suivent et ne se ressemblent pas toujours. Pas de notification dans tous les sens lundi soir pour les supporters havrais. Le marché hivernal français s'est refermé sans nouveau départ ou arrivée. Au HAC, les jeux semblaient être faits depuis déjà plusieurs semaines. Pour en parler, le débrief 100% à Gressois pour la première fois de la saison. Jean-Michel Roussier, président du Havre AC, bonjour.
Bonjour.
Et à mes côtés, comme toujours, les fidèles de ce podcast, Mathieu Billot de Foot Normand et Luc Gallet du Courrier Cauchois. Bonjour à tous les deux.
Salut à tous.
Bonjour tout le monde.
Au programme donc de cette émission, le chassé-croisé de l'hiver au HAC avec de très belles pioches, quelques départs, mais finalement peu de prolongations. On évoquera bien sûr aussi la dernière sortie à Lens de Cécile et Marine, qui sont toujours avant-dernier de Ligue 1 sur le front de l'attaque. Hein, 15e au niveau du championnat, Mathieu Billot a eu peur en me voyant parler de...
Avant-dernier.
Je me suis dit, il s'est passé un truc dans le week-end que j'ai pas suivi.
Non, rassurez-vous, c'est parti pour le débrief 100% HAC, saison 2, épisode 10. Un peu de provocation avec ce bruit de désert pour entamer cette émission. Je le disais, le mercato d'hiver qui a refermé ses portes lundi 2 février à 20h. Une journée très calme du côté du HAC avec, plusieurs mouvements des dernières semaines. On va évidemment les rappeler dans un instant. Mais en coulisses, petite question, Jean-Michel Roussier, on en parlait juste avant l'antenne. Finalement, il y a quand même eu des choses qui ont été tentées des derniers coups pendant cette journée ou ces dernières heures?
Il y a eu des discussions. Il n'y a pas... Il n'y a rien qui a été tenté sur des arrivées, si c'est ça la question. Des discussions sur d'éventuels départs qui n'ont pas abouti. Donc une dernière journée calme pour ce qui est du résultat de cette journée.
Est-ce que c'est rare dans la vie d'un président de club que ce soit tranquille comme ça dans les dernières heures?
Oui, enfin rare. Ça, le problème des mercatos, c'est cette espèce de frénésie qui consiste à vouloir absolument tout faire dans les dernières demi-heures. Un jour, il faudra que ça cesse parce que ça n'a pas beaucoup de sens. Mais on y a été confronté sur des possibles départs, mais qui n'ont pas abouti.
Ouais, ça permet de faire monter les enchères un peu. En fait, c'est ça l'idée. Quand vous dites qu'il faudra que ça cesse, c'est pas. Enfin.
Bah parce que j'en vois pas. Enfin, objectivement, j'en vois pas moi l'utilité. C'est vous savez, cette frénésie, elle porte essentiellement sur. Vous voulez un joueur, enfin je parle pour les arrivées, hein, vous voulez un joueur, vous négociez d'abord un éventuel prêt, le prêt est d'abord payant, avec des options obligatoires, puis l'option n'est plus obligatoire, mais le prêt reste payant, puis à mesure que les heures avancent, le prêt n'est presque plus payant, et le jeu c'est même d'obtenir que le club qui prête le joueur conserve les deux tiers du salaire. Voilà, en gros, à quoi sert cette dernière journée?
Ouais, ça me fait un peu penser à l'immobilier, parce que moi, je suis en plein dedans en ce moment, pour rien vous cacher.
Mais oui, c'est un truc de marchand de tapis, peut-être pas d'immobilier, mais de marchand de tapis, ouais, sans aucun doute.
Bon, on n'a pas rappelé les arrivées, les départs. Le retour donc de Timothée Pembélé, ça c'était, je crois, la première annonce
Début janvier. Tout début
de ce mercato.
En prêt, toujours de Sunderland, oui.
Voilà, l'arrivée de Lucas Gourna prêté également. Alors, je prends par le mauvais bout, parce qu'en fait, Sofiane Boufal avait été annoncé avant, lui, il est arrivé. Arrivé libre de tout contrat. Et puis, il y a eu aussi des signatures en pro. On va en parler. Noam Obougou, Enzo Kofi et les prolongations de Rassoul Ndiaye et Simon Ebonog. Un petit bilan de ce mercato, président, et notamment sur ses arrivées. Je disais joli coup quand même. Toujours pas malgré les moyens qui sont...
Très positif. Comme quoi, on peut arriver à faire le mercato qu'on souhaite en s'y prenant suffisamment tôt. Qu'il s'agisse de Timothée, de Sofiane ou de Lucas, c'était des cibles... assez largement anticipé. Et donc, voilà, je crois que Lucas a signé le 15 janvier, il était le dernier, donc c'est dire qu'on pouvait ne pas attendre le 31 janvier, ou le 2 février, 19h50, pour boucler. Très, très, très satisfait des prolongations de Simon et de Rassoul, et des signatures des jeunes. On attend maintenant de boucler le plus vite possible la signature de Kenny Kétan.
Juste un petit mot peut-être sur Kenny Kétan, vu que vous en parlez, on en est où? C'est le dernier dossier.
On avance bien, ça a pris un peu plus de temps que pour les deux autres, mais on avance pas mal.
Vous êtes toujours confiant?
Très.
C'est quand même extrêmement positif, On le disait, je crois, la dernière fois, quand je crois qu'on a reçu Mathieu Bonnemer fin décembre. Aujourd'hui, faire signer un premier contrat professionnel à un jeune, même issu de sa formation, c'est pas une mince affaire. Surtout quand le jeune a commencé un peu à être exposé en équipe première, en Ligue 1, et plutôt brillamment. Que ce soit d'ailleurs pour Noam ou Enzo, hein, parce qu'ils voilà, ils ont brillamment réussi leur début. C'est pas neutre, ça, quand même, le message que ça renvoie par rapport aux autres jeunes de la KV qui arriveront peut-être dans 6 mois, 1 an, 2 ans.
Je rajoute aux 3, enfin, Kenny en attente, qu'il y a Stéphane Zagadou aussi.
Qui avait signé en début de saison, effectivement.
Oui, donc aujourd'hui, on a 4 garçons à peu près de la même génération, voire de la même génération, qui. 3 d'entre eux ont signé, un 4e est en attente de signature. C'est une année à marquer d'une pierre blanche, sans aucun doute.
Parce qu'on se rappelle un petit peu, alors c'était un peu antérieur, d'ailleurs c'était pas un peu, c'était antérieur à votre arrivée ainsi que celle de Mathieu, mais il y a quelques années, bah, et malheureusement, le HAC subissait le départ des fois de certains jeunes avant qu'ils signent leur contrat. Et d'ailleurs, le Havre et d'autres clubs français.
Hein. Donc, oui, non, mais il y a un bon pillage international des centres de formation français, donc arriver à l'éviter, c'est déjà très positif.
Avant de poursuivre, je précise que le petit bruit qu'on entend, c'est Jean-Michel Rossier qui tapote un petit peu sur la table du studio. Excusez-moi. On va essayer de le faire moins pour le reste
c'est
de l'émission.
C'est ça le code que tu envoyais. Je comprenais pas du tout ce qui se passait.
Même moi, j'ai pas compris non plus. Donc,
c'est du morse.
C'est un truc de voilà. C'est peut-être des messages cachés.
Il faut comprendre les codes, hein. C'est pas évident.
Je vais arrêter.
Il y a pas de problème. On vous demandait si éventuellement une 4e recrue, etc., pouvait être attendue. Bon, ça n'a pas été le cas dans les dernières heures, mais voilà, un petit retour quand même sur ces joueurs qui sont arrivés ou revenus d'ailleurs pour Timothée Pembélé. Il était vraiment très très heureux, je crois.
Bah oui, déjà pour de rejouer, et puis bon, il avait gardé un souvenir assez mémorable de ces 6 mois de la saison passée, donc oui, je crois qu'il est très très bien, très heureux, comme le sont d'ailleurs. Et Lucas et Sofiane, qui sont plutôt très très contents d'être là.
Lucas, il en est déjà à 2 titularisations. On faisait référence au fait qu'il avait signé dès le 15 janvier. C'est ça aussi quand même l'avantage de signer plus tôt dans le mercato, c'est qu'on peut jouer plus tôt et qu'on n'a pas besoin d'attendre du coup début février pour éventuellement...
Absolument.
Voilà.
Et c'est vrai que là-dessus, vous avez pris un peu le contre-pied de, on va dire, de la tendance habituelle du mercato, notamment hivernal, où c'est souvent dans les dernières heures qu'il y a les derniers coups, enfin les derniers coups les plus retentissants. Là, vous, c'est clairement, vous avez pris un peu le contre-pied d'essayer de finaliser au plus vite ces 3 recrues-là. C'était clairement une volonté de votre part de sécuriser au plus vite.
C'était ciblé, c'est-à-dire qu'on discutait avec eux, avec leurs agents déjà depuis un moment, donc. Dès que le mercato s'est ouvert, on a fait en sorte de boucler les dossiers très très vite, que les garçons arrivent très très vite et soient en état de jouer. Voilà, Sofiane, ils étaient tous les 3 dans le groupe. Lucas a démarré le match, Sofiane a démarré le match à Lens et Timothée est rentré. Donc c'est aussi l'intérêt parce que tous les matchs, même pendant le mercato, ils valent le même nombre de points.
Bien sûr.
Et voilà, on doit pouvoir les jouer avec... le meilleur effectif possible.
Surtout qu'en ce mois de janvier, c'est le hasard, mais il y a eu quelques pépins, je pense notamment à Gauthier, qui ne rate quasiment jamais un match, et qui a une blessure, on va dire, de moyenne durée. On a vu à Lens, on y reviendra un peu plus tard, mais que Aruna Sanganté a dû quitter ses coéquipiers un petit peu prématurément à cause d'un protocole commotion. C'est bien la preuve qu'il faut quand même un maximum de force vive pour pouvoir tenir une saison et remplir les objectifs.
Ayoumou Seko qui a réussi à finir le match avec une fracture de côte, donc vous voyez c'était pas neutre, ça a laissé quelques dégâts ce match.
Donc les 3 joueurs qui sont arrivés, et ils sont pas neutres aussi, ils vont rendre de précieux services dans les semaines à venir et les mois à venir.
Je vous le confirme.
Juste, on est toujours un petit peu gourmand, un attaquant, est-ce que c'était possible, envisageable?
Illusoire. Voilà, illusoire. J'ai lu, j'ai entendu tout ce qui a pu être dit, écrit sur le sujet. On a toujours dit que la priorité pour que d'autres joueurs que les 3 premiers arrivent, et je ne parle pas des prolongations de contrat, ça passait par des départs. Il n'y a pas eu les départs qui auraient pu se produire. Donc il était illusoire d'imaginer qu'on trouverait comme ça, miraculeusement, l'attaquant... soit en prêt, soit libre, parce qu'on pouvait fonctionner qu'avec des prêts ou libres, et il n'existe pas cet attaquant.
C'est ça, parce que pour vous, c'était encore une contrainte sur ce mercato-là, il n'y avait aucun investissement qui était possible pour attirer un joueur.
Quand même, il y aurait eu des possibilités d'investissement. Je rappelle qu'on a un encadrement de la masse salariale, et une interdiction de recruter à titre onéreux. Donc quand même, notre actionnaire nous aurait donné plus qu'il n'en fallait de moyens pour ce recrutement-là, qu'on n'aurait pas pu le faire. Donc, voilà.
Ça, c'est un point important, je pense, quand même. Hein, c'est que, du coup, c'est vrai que vous êtes vraiment
encadré clairement,
strictement.
Clairement.
Donc, ça veut dire que...
Et on est vraiment à la limite. Prolongation, ça veut dire des modifications de salaire, bien évidemment. Vous imaginez bien que les prêts qu'on nous a faits ou qu'on nous a consentis, on les a pas, ils ne nous les ont pas consentis gratuitement. Ça a un coût, et un coût certain. On parle de prêts avec des clubs anglais ou avec Leipzig, donc... pas des petits clubs. Donc voilà, c'est, tout ça, c'est comment on arrive à jongler dans le cadre de cet encadrement et de cette interdiction de recruter à titre onéreux.
Et des salaires à prendre en compte en plus de la masse salariale qui était déjà là.
On est bien d'accord.
Il y a 10-15 ans, être en fin de contrat, c'était jackpot. Tu prenais la prime à la signature, tu prenais un gros salaire et tout le monde te paye, etc. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de fins de contrat dans tous les clubs français, mais aussi dans le monde entier, en Europe. Et aujourd'hui, le football est mondial, tu peux aller chercher des joueurs partout. Et t'as beaucoup de jeunes. Vous regardez tous les effectifs de Ligue 1 aujourd'hui, tous les week-ends. On voit des numéros 33, 34, 35, 36, 40. Mais il y a une raison à ça aussi, c'est qu'il y a moins de joueurs dans les effectifs, qu'il faut lancer des jeunes joueurs, leur faire signer un premier contrat professionnel, en espérant que ça marche bien, et puis qu'à un moment donné, il y a un club anglais ou allemand qui puisse venir sauver votre club. Donc ça laisse moins de place à des joueurs confirmés ou 25, 28, 30 ans, etc., sur potentiellement des joueurs libres. Aujourd'hui, les clubs préfèrent investir sur des jeunes joueurs.
Mathieu Bonnemer dans le débrief 100% AC, c'était juste avant le début de ce mercato, il évoquait l'autre objectif de cet hiver, enregistrer des prolongations de contrats. Alors on l'a déjà dit, Rassoul Ndiaye a paraffé un contrat jusqu'en 2028, Simon Ebonoc jusqu'en 2029, mais personne d'autre, malgré potentiellement un contexte, on l'entendait là, ce que disait Mathieu, ou peut-être rester dans un club, c'est plus rassurant pour un joueur. D'ailleurs, c'est ce que nous ont dit un petit peu lors de la dernière émission, notamment Rassoul Ndiaye. Rassoul, est-ce que c'est une déception qui n'ait pas eu...
Déception, oui. Pour partie, c'est une déception. Maintenant, la saison n'est pas finie. Et je n'exclus pas que nous arrivions à prolonger un, deux, peut-être trois joueurs, je ne sais pas. Mais effectivement, comme l'a dit Rassoul, aujourd'hui le marché a tellement changé que autant il était certainement intéressant par le passé pour un joueur d'arriver libre, d'être libre et de pouvoir signer à sa main, à ses conditions dans un nouveau club, autant aujourd'hui, c'est beaucoup moins évident. Donc, les joueurs qui aujourd'hui n'ont pas prolongé ont eu tous des propositions sérieuses, solides, très respectueuses vis-à-vis d'eux. Il reste encore quelques mois avant la fin de saison. C'est possible qu'on augmente le nombre de prolongations.
Et on précise qu'il y avait deux options pour ces garçons-là qui sont en fin de contrat du coup au 30 juin. C'est de prolonger ou éventuellement de trouver un club, de signer dans un autre club contre une indemnité éventuellement de transfert. Il y a quelques marchés encore qui sont ouverts parce que ça c'est toujours la particularité du mercato, c'est qu'il ne se termine jamais à la même date dans tous les pays.
Il reste la Turquie.
Pas grand chose.
Ouais. Il reste la Turquie.
Il reste la Turquie parce que je voyais Pays-Bas, Portugal aujourd'hui. Mais
non, Portugal, ça c'est fini, je crois, cette nuit à 1h du matin.
D'accord, ok. Donc il reste
peut-être les Pays-Bas, je ne sais pas. La Turquie. La Turquie qui ferme vendredi.
Ouais. Est-ce qu'il peut se passer encore des choses ici?
J'en ai aucune idée. Objectivement, j'attends rien. Alors après, on n'est pas à l'abri. Que quelque chose se produise, mais je rappelle encore une fois que ce que j'avais dit et ce que je redis, on avait demandé aux joueurs qui n'avaient pas prolongé et averti leur conseiller que nous souhaitions qu'il y ait une alternative de départ au mois de janvier. Maintenant, encore une fois, pour qu'il y ait une alternative de départ, on est trois parties prenantes. Hein. Il y a nous, le joueur et le club éventuel demandeur. Donc si les trois conditions ne sont pas réunies, le départ il est complètement utopique, il est... ça sert à rien même d'en parler. Donc, voilà.
Ça veut
et
dire
on l'avait demandé.
Ça veut dire que le blocage, parfois, ne vient pas forcément du joueur, mais peut venir du club. Bah,
il faut une offre, quoi.
Ouais. Oui. Bah, qu'il n'y a pas d'offre. Voilà.
Et est-ce que vous avez eu des... Alors, je parle d'offres qui sont décentes, entre guillemets, que vous considérez. Est-ce que vous avez
On a eu une offre décente qu'on a refusée, mais pour des raisons purement sportives. En parfait accord avec Didier, et voilà, on a répondu qu'on ne donnerait pas suite, et on a eu deux offres indécentes.
Donc là, ouais, donc en tout, on est quand même sur trois offres. C'est pas non plus, c'est pas non plus le radeau des.
Non. Les offres indécentes, j'en parle même pas parce que ça ressemblait à rien. C'était un grand manque de respect pour nous. L'offre très décente, bon, il fallait sportivement la refuser.
Parce que forcément, ça aurait diminué le potentiel de l'équipe.
On se compliquait la vie.
Ouais, donc il y a aussi un maintien à assurer et c'est ça l'objectif
c'est quand
numéro
même
1.
La priorité.
On y reviendra un petit peu plus tard dans
c'est
la suite de l'émission. Mais, voilà. On peut juste rappeler peut-être les garçons qui sont, parce qu'on l'a pas dit, je crois, qui sont en fin de contrat. Enfin, les principaux, il y en a peut-être d'autres, mais il y a forcément Aruna Sanganté, Gauthier Loris, Étienne Youté, Abdoulaye Touré, Yacine Keshta et Issa Soumaré. Si je me trompe pas, ils sont tous en fin de contrat
c'est
au 30 juin.
Exact.
Voilà, donc forcément, c'est quasiment. Alors, Abdoulaye, c'est un petit peu un cas particulier car malheureusement, il est blessé au genou maintenant depuis plusieurs semaines et je crois qu'il a encore besoin un petit peu de temps pour.
Ça fait
même plusieurs mois peut-être.
Non, ça fait, je pense, ça fait deux mois maintenant. En fait, il s'est blessé au soir du match au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain. Voilà, on n'est pas loin des deux mois et il reste encore un petit moment, bien sûr, avant de le voir revenir dans l'effectif.
Donc voilà, sinon, Étienne Youté, c'est plus remplaçant, même si lui aussi, en ce moment, il est à l'infirmerie. Mais sinon, pour les autres, c'est vrai que c'est des titulaires ou c'était des titulaires. Yacine découvre aussi les joies de la concurrence sur un milieu de terrain hyper performant avec l'émergence de Simon. Rassoul, qui est devenu pleinement un joueur de Ligue 1, qui est peut-être le joueur de cette saison.
L'arrivée de Lucas.
On parle même pas de Youmouseko, qui est peut-être la recrue été ou hiver confondu du hack.
Oui, clairement.
Ouais. Il en faudrait plus des Youmouseko.
Ça serait parfait.
Ça serait parfait.
C'était la toute bonne recrue.
Sur les joueurs justement cités en fin de contrat, bon, j'imagine que la priorité, c'est quand même d'essayer d'en regarder le maximum. Mais si vraiment il y avait... une priorité parmi les priorités, ça serait lequel d'entre ces joueurs?
Je ne sais pas si on peut définir en priorité. Ils ont tous leur importance et voilà. Enfin, c'est évident que si on raisonne en termes de formation dans la liste que vous avez donnée, il y en a déjà deux qui sont au club depuis 10 ans, qui sont arrivés à 13 ou 14 ans. Vous imaginez bien que ne pas les prolonger, c'est compliqué, quoi. C'est quelque chose de... C'est une énorme déception pour le club.
On parle de Aruna Sanganté et Yacine
Keshta.
On n'a pas les nommés.
Je vous laisse deviner
recolle,
dans la liste.
Pour ceux qui ne nous suivent pas.
Voilà, donc là, on parle, c'est vrai, des points un petit peu plus négatifs, mais comme on le disait, le mercato d'hiver, il a été globalement extrêmement positif, avec trois arrivées, deux prolongations, deux premiers contrats pro. Et on croise les doigts, bientôt peut-être un troisième. Et un effectif, on le disait un petit peu avec Didier lors d'une conférence de presse, c'était avant Lens ou même le match d'avant. Peut-être que le Havre a aujourd'hui l'effectif le plus dense qu'il n'a jamais eu depuis qu'il est remonté en Ligue 1, il y a maintenant trois saisons.
Qualitativement, je le pense clairement. Oui, mais c'est à l'image de nos dernières sorties, de nos derniers matchs. Alors pas tous couronnés de succès, sans aucun doute, qualitativement le plus complet.
Et bien justement, on va en parler.
Oui, on joue bien. Oui, on fait beaucoup d'efforts. Oui, on montre un très beau visage. Mais ça rejoint ce que j'ai dit la semaine passée. On deviendra vraiment une bonne équipe quand on arrivera même à gagner les matchs qu'on mérite pas de gagner. Et quand on est le Havre, c'est ce qu'on doit réussir. Mais c'est très important de savoir gommer les petits détails, parce qu'on avance dans la saison et que les points deviennent importants.
Dans le débrief 100% avec les mots de l'entraîneur Didier Digard après la défaite à Lens sur le plus petit des scores, 1-0, c'était vendredi soir à l'issue de cette 20e journée. Le Havre est donc 15e avec 20 points, un petit matelas de 6 points sur le barragiste Nantes et 7 points d'avance sur la zone rouge où l'on trouve toujours Auxerre et Metz. Un mot sur ce match face à l'un des poids lourds de la Ligue 1, Jean-Michel Rossier, qui était Lens, qui était au moment du coup d'envoi déjà le dauphin de Paris, déjà repassé sur la deuxième marche du podium.
Il laisse des regrets, le match, parce qu'effectivement il y avait un peu de place pour faire mieux, je pense, en termes de résultats. Voilà, et là où Didier a parfaitement raison, c'est que c'est pas le premier match comme ça. C'était le cas contre Monaco, c'était le cas à Rennes. Voilà, des matchs où c'est très bien d'être considéré comme une équipe qui joue. Et, voilà. Mais il y a un moment, comme il le dit, il y a des matchs qu'on ne doit pas gagner, mais qu'on doit, auxquels il faudrait qu'on arrive à gagner. Et je pense que Lens en fait partie. Voilà, donc un petit regret quand même.
Sachant que les précédents matchs que vous évoquiez, c'était des matchs nuls, et donc il y avait quand même un point en bout.
Il y avait un point, et tous les points, effectivement, tous les points vont compter. Donc je pense qu'on avait la place à Lens pour ramener un point. Voilà.
C'est peut-être d'ailleurs dans cette saison qui est beaucoup plus sereine, beaucoup plus qualitative en termes de qualité de jeu, c'est peut-être le seul regret, c'est que de se dire que Le Havre n'a pas engrangé autant de points que ses productions dans le jeu le lui permettraient.
Clairement, je pense qu'on pourrait avoir 6-7 points de plus, ça ne serait pas un scandale. Ça correspondrait mieux à la qualité de ce qu'on a produit depuis le début de saison, oui, clairement.
Mais forcément, ça changerait un petit peu la vie avec 6-7 points de plus.
Ça ne serait plus la même.
Ça serait plus, même dans l'optique de construire le hack de demain.
Non, parce que bon, voilà, on reste sur l'objectif de se maintenir, c'est clair. Mais on, voilà, et plus y affinité, quoi. Il y a matière à se situer. Jusqu'à maintenant, il y a matière à ce qu'on aurait pu être un tout petit peu plus haut.
Justement, après le match, Pierre Sage, l'entraîneur de Lens, disait voilà, j'aime bien justement les choix de tactique de Didier Deschamps, le fait de vouloir jouer justement, même face à des gros, de ne pas fermer le jeu. J'imagine qu'en tant que président, ça vous plaît justement de voir cette équipe, voilà, même face au cadre du championnat, regarder ces équipes-là, les droits dans les yeux.
Ce qui plaît, c'est pas tant les commentaires des coachs adverses, parce qu'on en a eu quelques-uns comme ça qui à chaque fois ont félicité notre attitude. Moi, ce qui me plaît, c'est la façon dont Didier les fait jouer. Voilà. Je suis d'accord avec Pierre Sage, il n'y a aucun doute. Je suis d'accord avec Luis Enrique, je suis d'accord avec tous ceux qui ont dit beaucoup de bien de nous. C'est plus facile de dire du bien de nous quand l'équipe adverse a gagné.
Voilà, c'est souvent comme ça, d'ailleurs.
Ça aide un peu.
Et c'est toujours comme ça. Mais non, ce dont je suis satisfait, c'est la façon dont Didier les fait jouer. Ça, il n'y a aucun doute.
Comment vous voyez un petit peu cette lutte pour le maintien là ? Je regardais, je prenais comme référence Nantes, hein, qui est aujourd'hui en position de barragiste, qui a à ce stade de la saison quand même très peu de points, même si on sait que, et on est bien placé pour le savoir avec le hack la saison dernière, qu'en général les équipes du bas, leur moyenne de points augmente sacrément en deuxième partie de saison. Mais là on se dit que oui, c'est la barrière des 30 points pourrait peut-être suffire pour se maintenir à ce rythme-là.
Oui, enfin, bon, vous savez, ça me fait penser un peu à la saison dernière, et tant mieux pour ce qui nous concerne, parce qu'on est mieux que la saison dernière. Donc, oui, les équipes du bas prennent des points. La bagarre pour les premières places va être de plus en plus violente. Donc, je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait moins de surprises pour les matchs entre les équipes du bas et les équipes du haut. Voilà, mais... Bon, c'est encore un petit peu tôt pour anticiper ou tirer des conclusions. On a tout ce qu'il faut, nous, pour nous en sortir, et j'espère plus sereinement et plus vite que la saison passée.
Avant la dernière minute de la dernière journée.
Ouais. C'est ça. Et pas sur Péno.
Si non, possible. Ça, c'est sur Péno. Bon, ça passe.
Une petite question annexe qui n'a pas directement à voir avec le sportif. On parle de l'équipementier en ce moment, d'un changement potentiel, etc. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cette info comme quoi le hack signerait plutôt avec Hummel
Non, ça, je ne vous confirmerai pas avec qui le hack va signer, c'est sûr. D'abord parce que rien n'est bouclé, mais le changement. Oui, il en est largement question, mais c'est pas un élément nouveau. Il est de notoriété qu'on a eu un gros, gros problème avec l'équipementier, notre équipementier actuel, qui est Umbro, avec d'énormes délais de retard sur les délais de livraison, parce qu'on a été livré au mois d'octobre, au mois de novembre, alors qu'une saison, vous
faut
anticipez tout
juin,
le 1er juillet.
Juillet pour les ventes de maillots.
Quoi, ouais. Voilà. Donc oui, tout ça a créé une grande perturbation dont on se serait volontiers passé à tout point de vue. On aura très certainement un nouvel équipementier la saison prochaine et on l'annoncera le moment venu.
On précise que c'est quand même effectivement extrêmement important. C'est par rapport aussi aux revenus du club, au-delà du côté logistique, qu'il faut forcément que toutes vos équipes soient livrées en temps et en heure, mais il faut aussi, quand on propose des maillots, il faut aussi pouvoir les en avoir suffisamment en stock pour pouvoir les vendre à ceux qui à ceux qui le souhaitent.
Ouais, parce qu'avec la qualité de nos droits télé, si en plus toutes les produits dérivés, le merchandising, etc., les boutiques n'ont pas les produits, donc on additionne les difficultés où là on devrait essayer de trouver des moyens de d'augmenter nos ressources. Ça les empire, donc, donc oui, évidemment que c'est un énorme souci. Ça a été un énorme souci.
Parce qu'on rappelle, hein, tous les étés, le club organise...
le Fan Day.
Ouais, Fan Day, une animation où justement les maillots sont un petit peu présentés. C'est en général le cours en juillet, si je me trompe pas.
Ah, c'est avant. C'est juste au moment de la reprise.
Et forcément qu'à ce moment-là, si vous n'avez pas les maillots en stock, c'est un peu problématique pour les gens. On sait que voilà, dès qu'il est présenté.
Et nous, ne les avions pas, puisque encore une fois, les livraisons sont commencé à arriver au mois d'octobre. Quoi. Donc, on avait plus de 3-4 mois de retard.
Et avec un troisième maillot aussi qui a été dévoilé récemment.
Il y a 15 jours.
En début d'année, oui.
Et pour cause, on ne l'avait pas avant.
Et c'est ça, voilà.
Bon, ça valait le coup d'attendre, a priori.
Je suis d'accord avec vous. Maintenant, c'est bien de pouvoir maîtriser ses choix et l'organisation de ses ventes. Quoi. Et ce qu'on n'a pas pu faire, on les a subis.
Vous parliez des droits télé, justement. Je crois que le chiffre a été annoncé dans l'équipe par rapport à Ligue 1 Plus, un peu plus d'un million d'abonnés, 1,08 million.
Un million cent. Pour l'instant, on est en dessous d'un million cent.
C'est ça. Bon, quel bilan vous tirez de ces six premiers mois et de a priori, une meilleure directive que une hausse par rapport à l'année dernière sur DAZN, où ça avait été catastrophique, le nombre d'abonnés, j'ai pas les chiffres en tête, ça a pris beaucoup plus vite en tout cas.
L'année dernière, c'était pas notre souci, puisqu'on avait un engagement de DAZN et des règlements, donc on avait un montant. Il faut être clair que cette année, on va avoir moitié moins que ce qu'on a reçu à classement constant, Nickel. Égal. C'est moitié moins que l'année dernière, donc... C'est une année catastrophique et qui va probablement être encore pire l'année prochaine, puisque Bein se désengage sur le match qu'il avait et que l'argent que DAZN a versé à la Ligue pour se désengager de l'année dernière, il a été entièrement consommé cette année. Donc on s'attend à une saison 26-27 très mauvaise. Ligue 1 Plus a le mérite d'exister parce qu'il n'y avait pas d'alternative. Maintenant, est-ce que c'est la solution d'avenir ? Pour ce qui me concerne, je ne suis pas convaincu. Je pense que la solution d'avenir, c'est dès que possible, de trouver le bon opérateur qui reprendra les 1 million et quelques d'abonnés de Ligue 1 Plus pour permettre à la Ligue 1 de retrouver, sinon les niveaux antérieurs de recettes, mais au moins un niveau beaucoup plus acceptable.
Mmh. Le bon opérateur, en France aujourd'hui, il n'a pas 50. Mmh. Tout le monde en pense à... Ah, il y en a un, c'est Canal, qui fait un peu la pluie et le beau temps sur ce...
pour l'instant, par rapport à la Ligue 1, c'est plus la pluie que le beau temps. Hein,
oui, c'est effectivement. Ça a été le beau temps peut-être il y a quelques années, mais...
Je pense que, malheureusement, pour l'instant, alors je ne suis pas dans le secret des négociations, mais je crains que ça reste très très compliqué avec Canal et que à partir du moment où la Ligue a développé sa propre plateforme et ses propres abonnés, dont elle est propriétaire, enfin entre guillemets, dont elle est l'exploitante, c'est un produit qui a de la valeur sur le marché des autres plateformes. Donc je pense que s'il y a une sortie, elle peut passer par là.
Et comment vous voyez l'initiative? On voyait que, par le biais de Nicolette Taverneau, Ligue 1 Plus était positionné par exemple sur les droits de la Coupe du Monde, en complément de la chaîne gratuite qui sort M6, qui diffusera les deux tiers des matchs. Est-ce que vous trouvez que c'est...
54 matchs sur M6 et les 100 et quelques...
La totalité du coup.
Sur Ligue 1 Plus. Si
est-ce que vous trouvez que c'est une bonne initiative de faire ça à une époque où forcément il n'y a pas de Ligue 1?
Il y a 3 mois d'interruption. Alors oui, ça c'est un calcul, je ne vais pas rentrer dans le détail des techniques, parce que là ce serait très emmerdant pour les auditeurs. Donc je dis juste que il y a 3 mois pendant lesquels il n'y aura rien. Ouais. Entre la fin mai et la fin août, qui est le date, le 20 août, je crois que
c'est la reprise
août,
de la Ligue 1 en 2026. Ouais.
Donc il y a 3 mois dans lesquels il n'y a rien. Et ça tombe très mal, ces 3 mois, puisque ça correspond à la période à laquelle les abonnements ont été pris il y aura donc un an, à Ligue 1 Plus. Donc on va se retrouver avec des gens qui ne sont plus abonnés.
Qui vont se désengager.
Et qui n'ont aucune raison de relancer leur abonnement, parce que de toute façon, l'écran sera noir. Donc oui, il fallait idéalement trouver une alternative. Est-ce que ce dossier va aller au bout? J'ai quelques doutes dès lors que Bean a retrouvé une volonté d'obtenir ses droits. Et quand on sait les relations qui existent entre Bean et la FIFA, je pense que c'est pas gagné. Mais tant mieux si ça arrive au bout.
Oui, donc vous trouvez que c'est une bonne initiative du coup
d'essayer de... Je pense que c'est la bonne initiative parce qu'il n'y avait pas le choix. Il fallait absolument trouver une alternative pour engranger des nouveaux abonnés. Et la Coupe du Monde, même si les horaires ne sont pas les horaires les plus idéales puisque beaucoup de matchs vont avoir lieu au milieu de la nuit, ça va créer malgré tout un flux d'abonnements et peut-être de nouveaux abonnés. Il faudra souhaiter qu'ils restent pour la Ligue 1, mais voilà, il n'y a pas d'autre alternative.
J'allais dire, est-ce que c'est l'enjeu aussi de maintenir déjà cette base d'abonnés aussi, mine de rien?
C'est d'abord maintenir la base d'abonnés et s'assurer que les abonnés dont les abonnements viennent à échéance. L'année dernière, on a commencé le 11 août. Donc, le 11 août, leur abonnement sera à échéance. Sauf que nous, le championnat, démarre le 20 août. Donc, voilà, c'est maintenir la base d'abonnés qui est la nôtre et engranger des nouveaux abonnements.
Un petit point sur les droits TV. C'est vrai que vous nous expliquez que donc, la saison prochaine, il faudra faire encore moins que ce qu'il y a aujourd'hui, sachant qu'aujourd'hui, il n'y a déjà pas grand-chose. Est-ce que le football français, en tout cas pour les clubs de la seconde partie de tableau, ceux qui ne sont pas européens, donc ne touchent pas les droits TV, on va dire, européens, vont devoir apprendre à vivre pendant X temps sans droits télé? On a l'impression que l'extérieur, c'est ça.
Non, c'est pas qu'on va devoir apprendre. D'abord, c'est qu'on apprend déjà. Voilà, on n'a pas le choix, on a déjà commencé à apprendre. Après, sur la notion des droits européens, il y a deux notions de droits européens. Il y a les droits des clubs qui jouent les Coupes d'Europe. Ouais. Dans quel cas, là, ça leur appartient.
Qui ont gagné le droit, donc voilà.
Non, ça leur appartient. C'est pas là-dessus qu'il y a des discussions. Les discussions, c'est sur la répartition des droits internationaux du championnat de France. Le championnat de France, il est vendu à l'international. Et le fait est qu'aujourd'hui, les recettes générées par ces ventes à l'international est au moins égale à ce que Ligue 1 Plus génère. Donc, et ces droits internationaux ne sont en l'état réservés qu'aux clubs qui jouent les Coupes d'Europe, donc qui ont déjà une recette de Coupe d'Europe. Donc oui, je n'imagine pas qu'on ne puisse pas revoir la répartition des recettes générées par la vente à l'international des droits du championnat de France et que tout le monde puisse en bénéficier.
Vous croyez encore au principe de, on va dire, de solidarité qui...
Non, non. Non, je ne crois pas au principe de solidarité, je crois...
À la démocratie, qu'il y a une majorité de clubs qui expriment du coup...
À un moment, tout faire pour éviter les défaillances d'un ou plusieurs clubs, voilà, c'est tout. Et que tous les clubs n'ont pas des actionnaires, un actionnaire qui peut s'autoriser à perdre des centaines de millions tous les ans.
Justement, en parlant d'actionnaires, est-ce que on sait déjà si Bluecrow envisage de mettre un petit peu plus de liquidité, en tout cas pour garantir, ne serait-ce que la bonne santé, si on peut dire bonne santé financière, en tout cas du club doyen, notamment à l'échéance de la saison prochaine, pour vous aider justement à peut-être absorber ce manque de droits TV, par exemple. Est-ce que il y a déjà un engagement ou...
Non, aujourd'hui, Bluecrow assure la bonne santé financière du HAC sur la saison en cours, déjà. Ce qui est déjà beaucoup au regard du niveau de dette qui était le nôtre ou qui est le nôtre encore. Après, on va procéder saison par saison. On peut imaginer que la demande de la DNCG l'été prochain, enfin, mai-juin prochain, donc très bientôt, sera réitérée sur des garanties. Et voilà. C'est assez simple, hein. On a un mode de fonctionnement assez basique, on a un budget, combien on va perdre, parce qu'on ne peut que perdre en exploitation, je parle hors trading, hors vente de joueurs, on a montré qu'en termes de trading, on n'a pas fait grand-chose, donc qu'est-ce que la DNCG va demander à l'actionnaire en mai prochain? Puis, ce que la DNCG va demander, c'est les garanties financières pour une continuation d'activité sur un an, on parle saison après saison, voilà. Ce qui a été le cas pour cette saison-ci.
Trading, pas grand-chose aujourd'hui. On revient quand même à la signature de ces fameux premiers contrats pro.
Oui.
Pas grand-chose aujourd'hui, mais peut-être que demain que si, parce que peut-être. En faisant signer ces premiers contrats pro, forcément, les jeunes prennent de la valeur. On a un club, un coach et un staff qui n'hésitent pas à les faire jouer. On a vu encore à Lens, Zagadou, dont on parlait, qui était titulaire. Darren Mossengo qui est rentré suite au pépin physique. C'est aussi comme ça, forcément, que c'est aussi un cercle vertueux. Ça joue, ça signe, ça prend de la valeur.
Alors après, quand je voyais les chiffres dans d'autres clubs, je prends l'exemple de Rennes et de leur petit défenseur central et les montants évoqués par rapport à Liverpool, il y a un problème d'exposition aussi. Il n'y a pas que jouer. Est-ce que dans un an, Stéphane aura une valeur équivalente à celle de Jacquet? Est-ce que cette valeur, elle est pas, il y a pas un facteur multiplicateur parce qu'il joue à Rennes versus il joue à...
Certainement.
Et en fait, ça existe. Ça existe, bien sûr, réellement. Donc, on ne peut pas non plus rêver. Il est clair qu'on a, en matière de potentiel futur trading, des actifs importants. Est-ce qu'on pourra s'aligner sur ce que d'autres clubs qui ont beaucoup plus d'exposition que nous bénéficient de la part des clubs étrangers? Je ne suis pas certain, mais je le souhaite vraiment.
Un petit transfert à 70 millions d'euros.
72, ouais.
Ça peut,
on verra.
L'avenir nous le dira.
On en reparlera, c'est le cas.
C'est ça. Avant de se quitter, on va faire notre tour habituel des autres formations du HAC, à commencer par les féminines qui affronteront Lyon en quart de finale de la Coupe de France. Le tirage au sort, c'était en début de semaine. Lyon à Lyon.
C'était pas le bon tirage.
Non, je pense que c'est même le pire. Hein. On va être très franc.
Clairement.
Ça va être compliqué en championnat. Match nul intéressant ce week-end. Un partout face à Saint-Etienne, concurrente directe au maintien. Les HAC Women qui sont 8e avec 4 points d'avance sur la zone rouge. Elles joueront contre Montpellier. À Montpellier, la lanterne rouge d'Arkema Première Ligue ce week-end. Donc ce sera aussi un match hyper important. Chez les jeunes garçons, il a fallu aller jusqu'au tir au but pour valider la qualif en 8e de finale de la Coupe Gambardella. C'était face à Vertoux, formation de Loire-Atlantique. Après un partout en fait hein, sur le temps réglementaire. Le tirage au sort, ce sera dans la semaine.
Jeudi.
Et puis du côté des filles, puisqu'on est toujours sur les coupes, la Coupe Nike U18, victoire 2-0 en 8e face à Laval. Les filles se déplaceront à Rennes pour les quarts de finale. Et enfin en régionale, une défaite 3-1 pour la réserve du HAC. C'était face à l'AS Cherbourg qui du coup chippe la 3e place au Ciel et Marine. Une question sur les terrains à cette occasion.
Alors j'ai une question avant. Je poserai une question sur les terrains après. Ça va être compliqué pour la réserve de sortir encore une fois de championnat de R1.
Sachant que Saint-Lô a des matchs en retard.
Surtout que c'est un peu la rançon du succès, même si la première partie de saison n'avait pas été peut-être à la hauteur de vos attentes. Mais aujourd'hui, on a beaucoup parlé de Kenny Kétan, Noam Obougou et tout. Kenny Kétan, c'est 10 buts quand même en R1 sur la grande partie de saison. Ouais. Bon, tant mieux qu'il soit, j'ai envie de dire, avec vous en Ligue 1. Mais forcément, s'il est en Ligue 1, il n'est pas en R1. Donc, c'est un peu. Du coup, j'imagine que la deuxième partie de saison va quand même être compliquée pour cette réserve et se sortir de.
Il y a des choix qui ont été faits, mais bon, c'est vrai qu'on espérait mieux pour la réserve, clairement.
Et un petit mot ouais, sur les terrains, on en parle souvent avec Mathieu Bonnemer parce que c'est son grand cheval de bataille. Est-ce que c'est hors sportif, hors transfert, le prochain grand chantier que doit mener le club dans son ensemble?
C'est indispensable.
Pour passer un cap
On n'a pas, quelles que soient les équipes, on n'a pas les terrains correspondants au niveau de
d'un club comme le HAC.
D'un club, à la fois d'un club comme le HAC en Ligue 1, d'un club comme le HAC et dans son centre de formation, compte tenu du niveau du centre de formation, et on a un déficit énorme en matière de terrain.
Mais ça, quand c'est comme ça, alors, vous n'allez peut-être pas me répondre, et bien justement, mais forcément, c'est, entre guillemets, qui paye? Parce qu'aujourd'hui, même les terrains, ça coûte énormément cher, tout coûte cher aujourd'hui.
C'est bien la
question. Même les terrains, mais forcément, bon, on imagine que le HAC aimerait être accompagné par les collectivités ou
par les
pouvoirs
publics. Ça a été déjà le cas sur la rénovation des bâtiments.
Ouais, les bâtiments, mais c'est vrai que le cœur du... Alors, les bâtiments, c'est très bien parce qu'il faut accueillir les jeunes dans d'excellentes conditions et je pense que c'est le cas aujourd'hui, maintenant. Mais c'est vrai que le cœur du métier pour un footballeur, c'est d'avoir une bonne pelouse pour pouvoir bien pratiquer son activité.
Oui, bien sûr qu'on aimerait être accompagné comme on l'a été sur la rénovation de la KV. Maintenant, la situation du HAC, elle est particulière parce qu'on est un club professionnel avec un énorme centre de formation. Mais de ce que je sais, on n'est pas le seul club de la région à souffrir d'une absence de terrain ou des terrains
de qualité.
Qui ne sont absolument pas de qualité. Ça vaut pour le Havre comme ça vaut pour tous les clubs. Donc, j'imagine que pour les collectivités susceptibles de nous accompagner, c'est pas simple de dire on va aider le Havre et puis on n'aide pas les autres. Donc c'est un peu... Mais oui, on aimerait être accompagné, bien sûr.
Est-ce que vous pensez que l'émergence des jeunes qu'on a cité à maintes reprises, en termes d'image, ça peut favoriser en disant ben regarde, enfin le hack, regardez, même malgré des conditions des fois pas optimum, on arrive à sortir des jeunes capables de jouer en Ligue 1, et ce qui n'est pas une mince affaire quand même, il faut quand même le dire.
Je suis pas sûr que ça
compte pas dans le
ça compte dans l'équation. Je pense au contraire, c'est de dire bah vous voyez, vous avez des terrains minables
et vous arrivez quand même à faire du bon taf,
vous arrivez à sortir des talents, donc taisez-vous.
Moi je voyais le côté positif,
je le vois plus dans ce
sens. À moitié plein ou à moitié bide,
c'est ça. Moi je me disais que peut-être ça pouvait le faire, mais non.
Bon, c'est sûr que ce sera en tout cas un enjeu des prochaines élections municipales, effectivement, au Havre, mais ailleurs aussi, parce que c'est vrai que l'état des terrains de foot, on en entend régulièrement parler, notamment dans le pays de Caux. Un grand merci,
merci à vous.
Jean-Michel Rossier, d'avoir accepté notre invitation pour débriefer ce mercato d'hiver et bien d'autres choses. Je salue Luc Gallet du Courrier Cauchois, le foot régional, justement, les terrains, etc.
En ce moment, on n'est pas gâté en plus. Voilà, les terrains, enfin, les mauvaises conditions, mais bon.
En tout cas, on peut lire dans le Courrier Cauchois le vendredi et sur le courriercauchois.fr, et puis Mathieu Billot de footnormand.fr, où vous retrouvez ce podcast et également évidemment sur tendanceouest.com, Deezer et Spotify. Prochain match pour le HAC, ce sera dimanche 8 février à 17h15 face à Strasbourg. Fin de partie et à très vite pour un nouveau débrief.